Et moi j'ai toujours eu l'impression d'un peu de zoomer dans le son, quoi, tu vois. Genre tu te focalises, on se faisait ça avec mes potes au conservatoire, on tripait là-dessus à écouter que la caisse claire d'un morceau de The Roots par exemple, tu vois. On écoutait que ça. Tu sais, pour vraiment se dire, ouah, la caisse claire là. T'sais, et en fait au bout d'un moment t'entends l'attaque, t'entends la reverb, t'entends plein de choses.
Salut et bienvenue dans le 15e épisode des Mercredis du Lab. Le Mercredi du Lab, c'est l'émission mensuelle qui part à la rencontre de celles et ceux qui font le Ninkasi Music Lab. L'idée est simple, on parle musique et on en écoute, en compagnie de jeunes artistes émergents ou de ceux qui participent à les faire grandir. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Quentin, plus connu sous le nom de Human Pattern. Il porte un projet techno hybride qui mêle machine et saxophone avec une approche singulière, bien plus inspirée par Colin Stetson que par l'Epic Sax Guy, si vous voyez ce que je veux dire. On en parle ce soir depuis le Lyon Street Food Festival, où il vient de se produire en live et carrément d'ouvrir la main stage, la classe. Salut Quentin.
Salut.
Bon, comment ça va?
Bah super, je suis très ravi que tu parles de Colin Stetson, on commence super bien déjà.
Ouais, je pense qu'on a un point commun qui est qu'on aime bien Colin Stetson.
Oh oui.
Mais peut-être avant de parler de ça, tu peux poser un peu le contexte. À quel âge tu as commencé de faire de la musique? Comment tu es arrivé à Human Pattern? Raconte-nous un peu le début.
Je fais l'historique, ok, ça marche. Et bah du coup, j'ai commencé le saxophone, j'avais 8 ans. J'ai suivi un parcours assez classique dans une école de musique d'un petit village. Donc, j'ai pas tout de suite fait le conservatoire et tout. Ça, j'y suis arrivé après le lycée, plutôt au conservatoire. J'ai fait ça à Annecy. Et j'ai pris des cours de jazz et musique actuelle à partir du lycée, quoi. Et à ce moment-là aussi, il y avait un peu un effet où j'ai découvert ce que c'était que la musique en groupe. Et aussi la composition, et surtout la composition. J'ai eu ma première carte son, mon premier ordi portable, machin, les micros et tout, à peu près vers 18 ans. Et en fait, ça a été un coup de foudre aussi, le fait de composer, en fait. Donc très vite, le saxophone, c'était cool, mais j'avais envie de voir ce que c'était de jouer de la guitare, ce que c'était de jouer du piano, ce que c'était de jouer de la batterie. Donc j'avais envie de toucher à d'autres instruments et pour composer ma propre musique, quoi, en gros.
Et du coup, là, tu bidouilles. Tu fais des trucs... Tu t'empiles les lignes.
Clairement, ouais, si je devrais écouter ça aujourd'hui, je pense que je taperais un gros fou rire parce que, ouais. En plus, c'était que des trucs dans des cartons, donc il faut les mixer, quoi. Là, à mon avis, je savais pas trop mixer à l'époque. Mais, déjà, je faisais des petites boucles, je m'amusais, j'enregistrais mon sac, je m'étais acheté un micro, dans ma chambre, comme plein d'ados, quoi.
Et à quel moment t'as trouvé ton son? À quel moment est-ce que t'as décidé de se faire se rencontrer la techno et le saxo?
Je pense que c'est né un peu après la fin de mes études de conservatoire, donc j'avais 23 ans à peu près, 23-24 ans. En fait, je suis allé à Berlin et à la base, c'était un trip où on était parti faire avec des potes, on allait jusqu'en Serbie, puis on est remonté en fait jusqu'en passant par Vienne et tout, on fait une ligne droite jusqu'à Berlin, quoi. Et on s'est arrêté 2 jours à Berlin et il y a un gars qui nous a amené dans un club qui s'appelle le Trésor. Et j'ai halluciné, vraiment, j'ai fait d'accord, ok, là, il y a vraiment un autre monde, quoi. Je me souviens d'une salle avec un DJ dans une cage et ça mettait des subs, mais comme j'ai jamais entendu. Et tout de suite, avec mes potes, on a eu tous un coup de foudre, donc on y est retourné l'année d'après, avec encore plus cette envie d'aller se mettre dans le son, comme on disait, et taper du pied, comme on dit aujourd'hui. Progressivement, cette envie d'aller dans les clubs, découvrir cette techno, donc j'en écoutais aussi chez moi et tout. Et j'avais toujours en tête que dans ces endroits-là, il n'y a pas d'instrument acoustique sur scène. Déjà, il n'y a pas vraiment de scène, hein, qu'on se le dise, mais c'est quand même très centré autour du DJing et voilà. Et moi, je me suis dit, mais il faut trop que je mette du sax dans cet univers-là, quoi. Donc j'ai commencé à le faire et en fait, je me suis un peu pris des murs du point de vue technique, c'est-à-dire que les sonorités que j'arrivais à être avec mon sax, elles sonnaient tout de suite un peu cheesy, un peu justement Epic Sax Guy. Et je me disais, c'est pas trop mon truc. Moi, en parallèle de tout ça, je découvrais aussi un saxophoniste français qui s'appelle Guillaume Perret, okay. Et qui m'a aussi bien retourné le cerveau. Parce que du coup, il était sur des. Lui, il avait beaucoup avancé sur l'électrification de son saxophone, donc il avait des ingénieurs qui lui développaient des micros et tout, donc il allait vraiment loin dans le délire. Il mettait des grosses fuzz, des grosses distorsions. Il faisait un truc un peu métal, en fait, hein, clairement, avec son groupe Electric Epic à l'époque. Et j'étais là, waouh, qu'est-ce Guillaume Perret qui fait, c'est dingue. Moi aussi, j'ai envie d'électrifier mon sax et mettre des effets.
Ça t'a autorisé, en quelque sorte?
Ouais, enfin après je le faisais déjà, même à l'époque où je commençais à bidouiller sur la MAO, je me mettais des effets sur mon sax en post-prod, mais là c'était le jouer en live avec, c'est différent parce qu'il y a toute une... y a toute une partie technique derrière qui engendre des Larsen, qui engendre des choses comme ça. Et du coup, ça, quand tu veux faire un live, t'es bloqué parce que tu te dis, ce son-là, il est cool en stud, mais si je le joue en live, je fais péter le système son parce que tout explose, le Larsen et tout. Je peux pas faire ça. Donc en fait, cette idée, elle est restée dans ma tête. J'ai continué à faire des prods, mais du coup, j'étais plus sur l'aspect sampling du saxophone, sampling d'autres instruments aussi acoustiques. Mes premiers titres, il y a de la harpe, il y a de la kalimba, il y a des trucs comme ça. Et j'étais aussi super influencé d'un mec qui s'appelle Fortet, un anglais. Donc j'essayais un peu de le copier, je faisais des tracks dans cet esprit et tout. Et puis en fait, à un moment, Guillaume Perret, il a eu la bonne idée de commercialiser un micro avec un ingénieur, là. Un micro qui se met dans le bec. Et en fait, c'est un micro qui empêche tous ces risques de Larsen dont je parlais juste avant. Et là, j'ai dit, waouh, ok, il a fait exactement ce que je voulais en fait. C'est-à-dire un micro qui va me permettre de mettre tous les effets du monde sur mon saxophone pour pouvoir le faire ressembler à un synthétiseur en fait, le faire ressembler à complètement autre chose qu'un saxophone. Et du coup, je vais avoir plus de facilité à l'intégrer dans mes morceaux. Et je vais aussi pouvoir avoir plus de facilité de jouer en live avec. Parce que je vais avoir moins de risques de Larsen, je vais pouvoir jouer en club, des endroits où c'est fort et tout. Et je me souviens aussi que du coup j'ai beaucoup traîné au sucre.
Et t'as acheté ce micro?
Ah bah ouais, bien sûr que j'ai acheté, t'es malade. Direct. Ouais, j'ai fait, mais là c'est bon, ça va m'ouvrir des portes.
Et techniquement, ce micro, il a été développé par ce musicien Guillaume Perret.
Ouais, en collaboration avec un ingénieur. Marque, ça s'appelle, j'ai le droit de le dire, je pense.
Ouais, vas-y.
Ça s'appelle Viga Music Tool. Et, okay. Et voilà, ils ont collaboré ensemble pour que, du coup, il lui fallait, cet ingénieur, il lui fallait un saxophoniste.
Tu te rappelles du titre sur lequel t'as entendu ça pour la première fois, le titre de Guillaume Perret qui t'a vraiment marqué?
C'est pas vraiment un titre, c'est un album en fait.
Okay.
C'est vraiment un album entier, puis c'est un live aussi, je l'ai beaucoup vu en live, Guillaume Perret, plusieurs fois. Et c'est, l'album, c'était l'album juste Guillaume Perret et Electric Epic. Mais j'étais un sacré geek à l'époque, j'allais même chercher... je l'ai rencontré une fois et je lui ai montré des morceaux, je lui ai dit putain mais ça tu les as jamais sortis et tout, il m'a dit mais comment t'as réussi à avoir ces titres. En fait j'allais geeker pour chercher des nouveaux trucs et tout, ouais j'étais vraiment fan et donc voilà, donc je me suis dit lui il a fait la partie métal, moi je vais faire la partie techno et comme ça on se marchera pas l'un sur l'autre et on va tous les deux développer une facette un peu sombre de l'instrument, c'est un peu ça que j'aimais bien chez lui. Et voilà, du coup, quand j'ai vu qu'il avait commercialisé le micro, moi déjà je commençais à mettre des effets, j'étais déjà là-dedans. Hein, donc j'ai dit, c'est trop bien, en fait là c'est bon, je vais pouvoir mixer en club avec mon sax et on va pouvoir faire le truc quoi.
Et ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute un petit morceau de Guillaume Perret. Là, on va se lancer ça.
Okay.
Et puis on en reparle juste après.
Allez, trop
bien. Ok, c'est parti. C'était quelques mesures, les mesures d'intro de Shoebox, un titre de Guillaume Perret et The Electric Epic. Ouais. Et ça me fait marrer que tu cites ce titre parce que je connaissais pas, hein, là je viens de découvrir avec toi, mais je viens de vivre aussi le concert au Lyon Street Food et ton intro sur scène, je trouve qu'elle est très inspirée de ça. Tu sais, quand tu fais la grande soufflante je trouve qu'il y a ce côté un peu épique. On lance le show, quoi.
Ouais, carrément.
Je sens l'influence.
Ok, trop cool. C'est vrai que moi, les intros de concert, vu que je l'ai vu plein de fois en concert, Guillaume Perret, il a toujours un truc un peu dark et un peu... il a une lumière dans son sax, là, il a mis des lumières aussi. Qui réagissent en fonction du son quand il joue et tout. Et en fait, tous ces intros de concert, c'est complètement dans le noir. Et c'est lui qui arrive avec cette petite lumière. Et c'est vrai que je pense que ça m'a un peu influencé. Moi, j'aime bien poser un espèce de... Je sais pas comment dire. Un truc très ambiante, très sans rythmique. Et un peu sombre, tu vois, pour poser aussi direct l'ambiance de ce qui va se passer derrière, quoi, pour informer un peu les gens, genre justement ça va pas
ça
être,
commence
ça va pas être Jimmy Sachs, quoi.
Ouais.
Et ouais, du coup c'est cool que tu me dises que t'as senti ça, parce que c'est une très grande influence pour
donc là quoi. T'as ce Guillaume Perret qui t'influence musicalement et techniquement, bim, invention du micro qui va solutionner et qui va, ouais, te libérer sur scène. Et aujourd'hui, bon, quand on te voit sur scène, effectivement tu utilises pas le saxophone comme tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton utilisation de cet instrument?
Ouais, bah du coup en fait elle est venue de ce que je disais juste avant, du côté un peu compositeur, enfin plutôt du point de vue de compositeur que j'ai pu avoir dans ma jeunesse, quoi, où je me disais, bah voilà, j'aimerais bien apprendre à jouer du piano, de la batterie pour savoir tout faire, les instruments et tout. Et après je me suis dit, mais ce qui serait trop cool, ce serait que le saxophone lui aussi puisse faire des percus, il puisse faire des accords, il puisse faire en fait plein d'autres choses qui ne sont pas ses qualités premières, je veux dire, ouais, qui sont en fait, vu que c'est un instrument monophonique, donc il joue qu'une note à la fois, comme la voix, quoi. C'est quand même un instrument pour faire des mélodies. C'est un instrument, voilà, c'est
bien
un
sûr.
Mélodiste, un soliste avant tout. Et donc en fait, voilà, du coup, j'ai juste sur scène, j'ai un saxophone alto que j'ai, c'est mon saxophone d'études, hein, c'est celui que j'ai commencé, et que j'ai recyclé en fait pour faire des percussions. Donc en fait j'ai demandé à un luthier, mon luthier de toujours à Annecy, j'ai demandé en fait de me faire en sorte que mes percus, enfin que les bruits des clés fassent plus de bruit en fait. C'est un truc qu'on demande jamais normalement. Tous les saxophonistes ils veulent plutôt que les clés soient atténuées. On met d'ailleurs des bouts de liège, des trucs pour atténuer le bruit des clés. Et moi je lui ai dit, bah écoute, tu me fais sauter tout ça et on va faire en sorte que les clés fassent vraiment du bruit.
Pour vraiment matérialiser ça et faire en sorte que les gens qui nous écoutent, ils se rendent compte de ce qui se passe, est-ce que tu pourrais là juste le faire devant le micro, juste ça, juste le bruit des clés, parce que dans ton show, c'est intégré avec plein d'effets et tout. Mais...
Ouais, du coup, c'est transformé dans mon ordinateur, parce que le bruit des clés en lui-même, bah, vous allez écouter, c'est pas dingue non plus. Hein.
Vas-y, fais-nous la démo.
Bah, si je fais les percussions de mon titre qui s'appelle Rebirth.
Ok, c'est ça, parti. Quoi.
Voilà en gros ce que ça donne.
Et là c'est hyper intéressant parce que ce que tu viens de faire là, moi je le vois de mes yeux, t'es dans les loges du Lyon Street Food Festival avec ton sax et tu viens de faire des percussions dessus. Et sur ton disque, sur le titre Rebirth, on va s'écouter exactement ce moment là, ça donne ça. Voilà, on voit la différence. Donc là, effectivement, bah, t'as rajouté un kick et puis des effets.
C'est ça, exactement. Ouais, dans mes morceaux, enfin, en tout cas, dans les deux EP que je viens de sortir, tout a été fait avec le saxophone, sauf les kicks, les charlets, les snares, enfin, tous les trucs de boîte à rythme techno, puisque c'est là-dedans que je me situe. Mais ouais, et puis en fait aussi un truc important à savoir, c'est que les micros que j'utilise, c'est des micros piezo. En fait, c'est des micros qui viennent se coller sur des parois et qui captent les vibrations en fait. Donc là, vu que les clés du saxophone créent des vibrations, bah tout le corps du saxophone résonne. Et donc c'est comme ça que j'arrive à capter le son avec ces micros là quoi.
Et sur scène, c'est absolument incroyable quand tu fais ça. Je pense le public il répond tout de suite, il se dit c'est bizarre ce qui se passe et ouais. Tu sens qu'ils sont avec toi quoi. Ouais, tu rentres en connexion.
Ah, j'ai plein de gens qui m'ont dit putain, le premier morceau, t'as fait un truc, j'ai pas compris, genre je sais pas d'où ça venait et tout. Même il y a deux jours, j'ai joué à Clamart à côté de Paris et il y a un gars qui est venu me voir à la fin, il me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ce saxophone qui est posé sur un pied? Ouais, c'est aussi pour créer un peu la surprise, hein, j'avoue, c'est un petit élément sympa.
C'est un petit effet sympa. Ouais,
ouais, puis en fait ça amène vers d'autres percussions aussi, puisque c'est un système en fait où on vient boucher un trou puis le truc remonte en fait. Donc il y a un son à la fois quand on vient boucher, mais aussi quand on le relâche.
Ouais.
Donc du coup bah c'est un peu, franchement, c'est un peu galère. Pour pas se dire, voilà, pour être très honnête, c'est galère parce que ça fait pas, ça fait des sons un peu intempestifs. C'est-à-dire que des moments, on n'a pas envie que ça fasse des percus et ça en fait quand même. Donc du coup, faut composer avec ça. C'est une contrainte en plus. Et moi, les contraintes, ça m'a toujours rendu plus créatif. Donc ça me va très bien comme ça.
Et alors, il y a un deuxième truc chelou, si je peux me permettre, ouais, que tu fais avec ton sax. Alors c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être l'autre. Quand tu souffles. Sans utiliser le bec.
Ouais, c'est avec celui-là aussi. Ouais.
C'est avec celui-là aussi. Ouais, ouais. Tu peux nous le faire aussi, ça, parce ouais, que c'est très très impressionnant quand on le voit ça sur scène.
En fait, c'est simplement faire dedans quoi. Mais vu qu'il y a un pavillon et tout, ça amplifie. Et j'ai un micro qui est posé dans le fond. En fait, un micro de type comme celui dans lequel on parle. Hein. C'est vraiment un micro tout bête, mais après c'est voilà, il y a des effets et tout, mais. J'espère que ça n'a pas saturé, mais. Ça fait ce genre de truc, quoi.
Et donc sur scène, ça rentre dans une espèce de boucle et t'as l'impression que ce souffle, il devient comme un vent infini, il se mêle dans ta techno, ça donne un souffle au sens propre, quoi.
Ouais. Bah ouais, en fait, derrière, il y a une grosse réverb pour aussi faire en sorte que ça fasse pas que. Ça fasse. Il y a un truc derrière qui permettent d'apporter de la dynamique au son et puis ça me permet de mettre du relief aussi. Voilà.
Alors Quentin, on a beaucoup parlé de technique et merci de nous avoir un peu montré un peu les trucs derrière tes secrets de composition. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ta musique, elle est instrumentale, donc je ne sais pas exactement ce que tu veux nous raconter. Et ça m'intéresserait beaucoup de savoir, toi, c'est quoi les émotions que tu transportes avec ta musique et est-ce que tu as un message qui vit à travers cette musique, même si tu le dis pas avec des paroles.
Honnêtement, c'est pas le truc sur lequel je me focalise le plus. C'est quand même plutôt la recherche de la trance et la recherche du rythme. Et du coup, c'est un peu comment dire, un peu la recherche de à quel moment je vais mettre tel élément en plus. C'est un peu un jeu du cerveau, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de boucles qui se répètent et du coup en fait notre cerveau au bout d'un certain temps il se lasse en fait de ce qu'il entend parce que c'est que des boucles et il les reconnaît, etc. En fait c'est un peu un jeu de je laisse tourner un truc pendant un certain temps et puis en fait je vais rajouter un petit truc à un moment et ça va me redonner envie d'écouter, etc. Donc c'est vraiment un truc de transe et de boucle. Mais après j'ai quand même un peu des histoires derrière, des trucs, ça, c'est plus pour dégager une énergie ou une couleur au morceau quoi. Par exemple, le titre qu'on vient d'écouter là, qui s'appelle Rebirth, celui-là, je l'ai composé pendant le confinement en fait. Et je sais pas, tout de suite, quand on a eu cette période un peu de flou, quoi. Clairement, on savait absolument pas ce qui allait se passer, quoi. Au début, les deux premières semaines, on se disait, mais c'est inédit, c'est historique, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et moi, je me suis tout de suite fait une espèce de métaphore un peu, ou une analogie, je sais pas quel est le bon mot, mais. Où je me suis dit c'est un peu on est dans le désert là et puis on avance et on je sais pas où est-ce qu'on va mais on avance quoi. Et puis tout de suite ça m'a donné un peu ce truc oriental, c'est cette gamme machin. Mm. Donc voilà, du coup c'était juste au début ce morceau pour je fais une petite exclu Ninkasi, allez. Au début il s'appelait La traversée du désert. Bon, pas été en exclu mais c'est pour dire en gros je m'étais juste mis ça comme mot et je me suis dit je suis en train de marcher dans le désert et il me faut un truc où ça me fasse un peu galoper comme si j'étais sur un chameau. Enfin après on peut aller loin quoi. Mais
c'est marrant que tu parles du désert parce que moi ça fait partie des émotions que je ressens quand j'écoute ta musique.
Ah trop bien.
Et cette notion de transe, le mot que t'as employé, c'est une notion je crois qui est très importante dans les musiques nord-africaines, d'Afrique de l'Ouest. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'associe au désert. Tu vois, c'est des boucles, c'est des polyrythmies.
Ouais.
C'est quelque chose qui est musicalement peut-être très collectif aussi. C'est une musique qui doit être vécue en partage. C'est quelque chose qui j'imagine prend toute son ampleur quand t'es en live. C'est là où tu ressens vraiment tes émotions d'artiste.
Ouais, du coup après moi je suis seul sur scène quoi, donc je partage qu'avec mon ordinateur.
Et le public,
voilà.
Non mais tu le sens qu'il rentre dans la transe avec toi ou
Ok, je crois que j'ai mal compris la question en fait quand je pensais. Quand tu parlais de partage, c'était entre les musiciens.
Non, pas que entre les musiciens, justement. Enfin, pour moi,
quand tu parles de musique polyrythmique africaine, moi, je pense tout de suite à des des dizaines de percussionnistes en même
mais
temps.
Mais t'as aussi tout l'esprit en fait du public qui se rassemble autour de ça et qui rentre dans évidemment. Une transe. Une transe pour moi, tu peux rentrer tout seul dans une transe, ça, je pense que c'est possible, mais ça prend vraiment toute son ampleur quand t'as le public avec toi.
Complètement. Non, mais là, je viens carrément de capter la question et en fait, moi, ça m'est arrivé plein de fois justement en live. Parce que j'aime bien avoir cette marge de manœuvre sur les boucles que j'envoie et en fait de pouvoir agir dessus quand je lui en ai envie. Et ça m'est arrivé de faire tourner des trucs très longtemps, beaucoup plus longtemps que sur des versions studio. Mais en fait, juste parce que t'es dans une atmosphère où tu sens que ça peut tourner, quoi. Que les gens ils sont partis. Et en fait, parce que moi j'adore ce biais du cerveau dans la musique répétitive qui est que en fait tu te focalises sur un élément. Et puis en fait, puis un autre, puis un autre, puis en fait tu découpes la musique et en fait pour ça il faut vraiment beaucoup beaucoup d'écoute et j'ai toujours eu l'impression d'un peu de zoomer dans le son quoi, tu vois. Genre tu te focalises, on faisait ça avec mes potes au conservatoire, on tripait là-dessus à écouter que la caisse claire d'un morceau de The Roots par exemple, tu vois. On écoutait que ça. Tu sais pour vraiment se dire ouais, la caisse claire là. Tu sais et en fait au bout d'un moment t'entends l'attaque, t'entends la réverb, t'entends plein de choses que tu ferais pas. C'est comme dans le film de Ray Charles là. Où à un moment il dit mais en fait vous écoutez pas quand il parle quelqu'un qui voit alors que lui il est aveugle, il dit mais vous écoutez pas correctement la musique et tout, et en fait il dit à je sais plus qui mais t'as écouté l'oiseau qui est sur la fenêtre. Et en fait la personne elle l'avait pas du tout vu alors que et en fait c'est une question entre de rentrer vraiment dans le son loin et via la musique minimale et toute la musique répétitive en fait tu peux vraiment aller loin dans ce délire là. Et moi j'adore un mec qui s'appelle The Field aussi qui joue énormément sur cette sur ce truc là, sur la durée des boucles. Et même moi qui en écoute beaucoup, des fois je dis oh c'est long là quand même, mais en même temps dès qu'il rajoute un élément
et c'est ça, t'as l'impression que les murs de la pièce viennent de s'effondrer,
tout s'ouvre. Tu dis mais il a rajouté qu'un charlet, gros, détends-toi, tu vois. Et en fait ça, moi j'adore cette sensation. Et du coup en fait je pense que dans la trance, en tout cas dans ce que je vois avec les gens, c'est que par exemple si je fais tourner une boucle où il y a juste kick charlet comme ça et que je la fais tourner super longtemps et que j'ai rajouté une caisse claire à un moment, les gens ils vont faire oh. Il s'est passé un truc de fou. Et justement, après, tu peux jouer avec ce temps-là et tu t'amuses vachement. Enfin, on s'amuse tous ensemble finalement parce qu'on ressent un peu tous ce truc-là et c'est vraiment cool.
Alors justement, ça, ça t'est arrivé concrètement. T'as déjà eu ce moment de live où tu sens qu'il y a cette connexion qui se fait et tu te sens bien.
Ouais, plein de fois. Et je l'ai encore plus sur les scènes où je suis proche des gens. Donc dans les bars,
dans les petits clubs.
J'ai fait une date à Lons-le-Saunier là en mai, le 25. Ouais. Je parle des trucs que j'ai vécu il y a pas longtemps du coup.
Bah ouais.
Et ouais, cette date là c'était fou parce qu'en plus c'était une scène en quasi 360, c'est-à-dire qu'il y avait qu'un mur dans mon dos, mais il y avait des gens à gauche, à droite et deux.
Ouais.
Et en fait, ça faisait vraiment un effet où je sais pas, j'ai senti un truc dans la pièce où les gens après ils se retournaient, tu sais, ils me regardaient même plus. Ils étaient vraiment dans un délire. On est en train de danser, on est en club et c'est trop cool. Et j'ai adoré ce moment parce que j'ai senti ce truc là de justement la boucle, je peux faire ce que je veux avec, je la laisse plus longtemps, moins longtemps, je peux, et j'ai senti ce truc de danse venir quoi. Et c'était une date où ça a commencé timide et c'est ça qui est génial, c'est quand ça commence timide et que tu sais que t'es arrivé à amener les gens dans cet état, ça c'est encore plus cool quoi.
T'orientes vraiment ton projet vers le live quoi.
Ouais.
C'est là où il prend toute son ampleur.
Ah, pour moi, ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de l'amener aussi. C'est-à-dire que je me vois pas faire des prods en studio et jamais les jouer. Moi, je viens quand même d'un... J'ai ce passé de groupe et j'ai ce passé de musique live dans les bars. Donc, et c'est pour ça que j'ai fait de la musique. C'est pour ça que j'en suis venu à faire ce métier, en fait.
Ouais.
Donc, je peux pas lâcher la scène. C'est impossible. Ça fait vraiment... C'est 80% de mon... De ce que je défends avec ce projet quoi.
Et du coup ma question elle est naturelle, c'est tu vois tous tes petits copains du Ninkasi Music Lab, ils sont tous en groupe et toi t'es tout seul avec ton ordi comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que t'as imaginé des formules où Human Pattern fait des collabs avec d'autres artistes de manière ponctuelle ou même pérenne, je sais pas, enfin t'en es où dans cette réflexion
Eh bien, j'en suis que j'ai monté un projet solo en me disant que je pourrais m'entourer d'autres gens justement. Alors, je vais pas dire que je vais faire Gorillaz, hein, je suis pas non plus là-dedans, mais c'est pour dire que j'avais monté ce truc-là en me disant, bah, c'est trop bien parce que ça ouvre la porte à plein de trucs. C'est-à-dire que si je croise quelqu'un qui joue de la percu, je sais pas quoi, et que le fait est qu'on peut jouer ensemble, eh bah, ben, go quoi. On fait un live, il vient jouer 15 minutes avec moi et c'est trop cool. Et ça, je le fais régulièrement, j'aime bien parce que en fait, ça évite aussi de se lasser de ses propres morceaux. vu que je joue tout le temps un peu les mêmes, bah là en fait le fait d'avoir quelqu'un qui vient faire, ça vient du jazz je pense, ça vient de l'impro en fait. J'adore le truc de dire bah vas-y en fait ce soir le morceau on va inviter machin et il va venir faire un truc et du coup le morceau il ressemble plus à l'original, il ressemble plus non plus à la version live que je joue depuis des années et c'est trop bien. Et donc ouais, je l'ai volontairement pensé aussi pour qu'il soit ouvert pour jouer avec d'autres gens. Et alors ça m'est arrivé très récemment, mais alors vraiment très 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 récemment, c'est-à-dire hier, où j'ai rencontré un saxophoniste sur Paris qui s'appelle Pierre Lapran, et on a fait une session tous les deux là pendant 4 heures, on a joué, c'était incroyable. Du coup lui il est aussi en train de développer un projet solo comme ça. Alors lui il appelle CNSM à Paris, il a un très très gros niveau de jazz et il fait des phrases très barrées on va dire, chose que moi j'ai un peu des lacunes là-dessus, mais du coup on a fait un espèce de B2B DJ mais avec deux projets live quoi, tu vois.
Ok.
Et ça m'a donné envie ouais de faire des collabs carrément et puis du coup j'en ai oublié la question initiale mais
non mais c'était ça exactement ça, mais ouais. Moi je suis super
après,
curieux
si,
de ça
avait,
parce que
il y avait un autre truc que j'ai fait aussi au tout début du projet, c'était de m'entourer d'un lighter, de la lumière.
Ok.
Et ça c'est un truc que je vais faire là, je vais recommencer ce travail à partir d'octobre avec le nouveau set. Pareil en fait c'était, je m'étais dit bah, un projet solo c'est bien tout seul sur scène d'une manière économique pardon mais voilà pour en vivre faut être payé hein. Et d'une manière économique c'est moins cher mais du coup ça va me permettre de faire de m'entourer de quelqu'un en lumière, c'était aussi l'intérêt du truc, c'est de
et
pouvoir
ouais.
se dire bah au moins je peux avoir quelqu'un qui me gère toute la partie visuelle du truc, vu que c'est de la musique instrumentale hein, ça nécessite vraiment une partie visuelle, donc là je vais m'y atteler à partir d'octobre.
Mais je pense que ce que tu dis c'est hyper intéressant et merci tu vois de parler aussi concrètement parce que le Ninkasi Music Lab c'est un dispositif qui est là pour aider les artistes à se professionnaliser, ça veut dire vivre de sa musique ouais. Et tous les aspects économiques c'est pas sale du tout, bien au contraire ouais. Donc je trouve que tout ce que tu racontes c'est hyper intéressant, que ce soit sur les aspects techniques, les aspects artistiques et les aspects économiques. Merci beaucoup Quentin.
Bah, écoute,
De nous avoir fait rentrer un peu dans les coulisses de Human Pattern. On est ici ce soir au Lyon Street Food Festival. Toutes ces personnes qui sont venues manger des trucs et qui ont découvert ta musique, ben, tant mieux, quoi. Ouais. C'est trop cool.
Puis
ben, j'ai hâte d'entendre la suite. On se quitte peut-être avec un son que tu choisis. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter pour terminer sur une note de Human Pattern bien cool?
Un truc plutôt joy ou un truc un peu qu'est-ce qu'on peut faire, un
c'est
truc
toi qui choisis.
Moi j'aimerais bien que les gens ils découvrent Colin Stetson quand même.
Ah ouais.
Mais bon, vu qu'on en a parlé, on peut.
C'est
on
vrai
peut
ça.
Dire,
on en a parlé au début. J'en ai mis dans mon intro parce que je sais que tu l'aimes.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insister pour que tout le monde a écouté Colin Stetson, mais genre vraiment. Et
ouais.
On va parler d'un autre saxophoniste encore.
Ok,
on
d'accord.
On va parler de The Comet Is Coming avec un morceau qui s'appelle Super Zodiac. Et vraiment, ce morceau, il me fascine. Je les ai vus en live. Ils ont commencé par ce morceau. Je pensais pas que c'était possible parce que techniquement c'est ultra dur et le saxophoniste donc qui s'appelle Shabaka Hutchings, il a un jeu qui est incroyable. Il est en fait lui il recopie les flows des rappeurs quoi. Je trouve ce truc dingue et il est capable de tenir juste avec une note. Il y a un passage là, je sais plus à quelle minute, mais c'est après le deuxième thème. Il y a un passage où il joue juste une note en note répétée, comme ça. C'est pas du tout un jeu saxophonistique, c'est presque un truc de guitariste quoi.
Ouais.
Et ça sonne de l'enfer, c'est génial. Les Anglais, c'est fou quoi. C'est un mélange de rock psyché et d'électro. Enfin, c'est trop
et
bien.
Et ben, on y va. The Comet Is Coming, c'est
yes,
ça.
Exactement.
On s'écoute ça. Merci Quentin.
Merci à toi.
Merci. Allez écouter Human Pattern, disponible un peu partout, sur toutes les plateformes, ouais. Sur les réseaux sociaux. C'est un projet qui gagne vraiment à être découvert. Et on se quitte en musique. Merci
yes.
pour tout.
Merci beaucoup.
Salut Quentin. Salut.